à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point, actualité largement consacrée à la situation au Moyen-Orient. Israël mène de nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, le bastion du Hezbollah, tandis que des pays du Golfe et Israël continuent d'être frappés par l'Iran. La France va affréter dans les prochains jours 7 vols supplémentaires pour rapatrier ses ressortissants du Moyen-Orient. 15 000 personnes sont déjà arrivées dans l'Hexagone depuis le début de la guerre. Et Emmanuel Macron vient d'arriver à Chypre pour témoigner de la solidarité de la France avec cet État de l'Union européenne dont la base britannique a été touchée la semaine dernière par un drone iranien. Et on débute cette édition par la situation au Liban. L'aviation israélienne mène de nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, le bastion du Hezbollah, après avoir averti qu'elle allait frapper une société financière qui lui est liée. Le Parlement libanais a reporté les élections législatives prévues en mai pour une durée de 2 ans en raison de la guerre en cours. Et au 10e jour de la guerre, les frappes s'intensifient. Des missiles iraniens ont tué 2 personnes en Israël. Des pays du Golfe font face à des attaques iraniennes visant leur infrastructure énergétique, notamment à Bahreïn. De puissantes explosions secouent aussi Téhéran, la capitale de l'Iran. Le pays entre dans une nouvelle ère avec la désignation de Mojtaba Khamenei comme guide suprême pour succéder à son père. L'Iran a également accusé les pays européens, dont la France, d'avoir contribué à créer des conditions propices aux attaques américano-israéliennes qui ont déclenché cette guerre. Et dans un autre volet, les autorités du Qatar ont arrêté plus de 300 personnes pour publication d'images et d'informations trompeuses lors des attaques de l'Iran contre le petit État du Golfe, selon le ministère de l'Intérieur. Et dans le reste de l'actualité, la France va affréter dans les prochains jours 7 vols supplémentaires pour rapatrier ses ressortissants du Moyen-Orient, selon le ministre français des Affaires étrangères. 15 000 personnes sont déjà arrivées en France, dont 900 grâce à des vols affrétés par le gouvernement, selon lui. Et Emmanuel Macron est attendu à Chypre pour témoigner de la solidarité de la France avec cet État de l'Union européenne, dont la base britannique a été touchée la semaine dernière par un drone iranien. Et enfin, conséquence de la guerre, les cours du pétrole ont dépassé 100 dollars pour la première fois depuis 2022. Le marché s'inquiète de voir le conflit se prolonger en raison des dommages sur les infrastructures énergétiques et du blocage du détroit d'Ormuz. Et le recours aux réserves stratégiques de pétrole est une option envisagée qui devrait être discutée lors d'une réunion en visioconférence des ministres des Finances du G7 qui a eu lieu aujourd'hui. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Place au dossier du jour. Premier dossier sur la situation au Liban. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a averti qu'un désastre humanitaire se profilait en raison du déplacement massif de la population à la suite des ordres d'évacuation de l'armée israélienne qui mène une campagne de frappe intensive sur le pays. Au total, plus de 500 000 personnes ont été déplacées. La France juge-t-elle disproportionnée ces frappes au Liban ? La question a été posée au ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, interrogé ce lundi par nos confrères de France Inter.
Nous avons demandé une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Liban. Et nous nous préparons, comme le président l'a annoncé mardi dernier, à apporter tout le soutien nécessaire à la population du Liban. Nous avons d'ores et déjà débloqué une aide d'urgence de 6 millions d'euros à destination des organisations humanitaires qui agissent sur le terrain pour ne pas perdre une seconde. Et nous nous préparons à acheminer un premier envoi de 20 tonnes de médicaments, de couvertures, de tapis, de lampes solaires qui devraient parvenir au Liban.
C'est pour le soutien au Libanais, mais sur ma question sur la disproportion de l'action de l'armée israélienne. Y a-t-il ou non une disproportion de l'action des Israéliens au Liban ?
J'ajoute que nous ouvrons ce matin, pardonnez-moi, mais je crois que c'est important de le dire, un fonds de concours du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Une disproportion de l'action de l'armée israélienne
Nous
au
ouvrons
Liban.
Donc un fonds de concours ouvert aux collectivités, mais aussi aux entreprises qui le souhaitent, pour que, avec le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères et en lien avec l'ambassade du Liban, nous puissions faire parvenir.
Je peux reposer une troisième fois la question, y a-t-il ou non une disproportion de l'action de l'armée israélienne au Liban ?
Le Hezbollah doit cesser ses frappes, lui qui porte une responsabilité écrasante dans la situation que nous vivons aujourd'hui, et Israël doit s'abstenir de toute prolongation de ses opérations militaires au Liban.
Est-ce que ce sont des actions disproportionnées ?
les opérations israéliennes doivent s'arrêter et celles du Hezbollah également. C'est l'objectif d'ailleurs des échanges nombreux.
Pardon ? Donc l'action d'Israël n'est pas
disproportionnée par rapport à quoi ?
Par rapport au droit international et par rapport à ce que vous avez demandé, vous et le président
Israël
de la République,
doit
à savoir de cesser les opérations au sud du Liban.
Elles doivent cesser, elles sont en train, pour ce qui concerne les opérations d'Israël, qui répondent à des frappes injustifiées et injustifiables du Hezbollah, elles sont en train de provoquer des déplacements massifs de population, de faire des dizaines de morts, des centaines et bientôt des milliers de blessés. Nous avons connu cette situation en octobre 2024. Les deux parties doivent revenir à la situation précédente, c'est-à-dire au cessez-le-feu que nous avions obtenu, que la France avait obtenu en novembre 2024.
Vous venez d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, interrogé ce lundi par nos confrères de France Inter. Second dossier du jour en Iran, Mojtaba Khamenei, le fils de l'ayatollah Khamenei, a été choisi pour succéder à son père, tué dans des frappes israélo-américaines au début de la guerre. Figure influente de la République islamique, longtemps restée dans l'ombre, le nouveau guide suprême s'inscrit dans la continuité du régime. Et vous nous faites son portrait, hein, Marc-Aurel Barrez.
Oui, longue barbe, poivre et sel, lunettes et turban noir, le nouveau guide suprême est un homme dont on ne sait que très peu de choses. Pourtant, à l'âge de 56 ans, il est l'une des personnalités les plus influentes de la République islamique, sans pour autant occuper de fonctions officielles. Son nom circulait de longue date pour prendre le relais de son père. Pourtant, c'est un homme discret dans les médias et dans les cérémonies officielles. Alors, sa véritable influence au sein du régime a longtemps été l'objet de spéculations. Certains le présentent comme le véritable dirigeant de la République islamique. Mojtaba Khamenei aurait en effet longtemps et discrètement agi auprès de son père. Il a par exemple été mis en cause par des opposants pour son rôle dans la répression de la population iranienne lors de manifestations d'ampleur qui avaient touché le pays en 2009. Loin d'être un réformateur, il est plutôt considéré comme très proche des conservateurs, notamment en raison de ses liens avec les gardiens de la Révolution. D'après le Trésor américain, il aurait travaillé en étroite collaboration avec la force Al-Quds, la branche responsable des opérations extérieures du régime. Selon une enquête de Bloomberg, le nouveau guide suprême est un homme riche. Il le serait devenu, notamment en tissant un vaste réseau de sociétés écrans à l'étranger. Alors que sa femme a été tué dans les frappes qui ont aussi coûté la vie à son père, cette nomination apparaît comme un défi à l'administration américaine. En effet, Donald Trump a annoncé qu'il la refuserait et qu'aucun nouveau guide suprême ne tiendrait longtemps sans son accord, tandis qu'Israël a averti que tout successeur serait une cible. De son côté, le président russe Vladimir Poutine, allié de Téhéran, a assuré Mojtaba Khamenei de son soutien indéfectible.
Merci Marc-Aurel Barrez pour toutes ces précisions. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.